France Culture.
Avec mon mec, on a lancé un petit jeu qui consiste à dire le truc le plus choquant, le plus malaisant possible en public et à chaque fois surenchérir sur ce qu'on se répond l'un l'autre. On a perdu quelques proches depuis qu'on a commencé à faire ça. Mais d'un côté, on se dit, qu'est-ce qu'une famille unie comparée à une bonne vanne? Au moins, les vannes ne meurent pas. Et donc, on fait ce jeu. Et il y a quelques mois, il y a des collègues à lui qui nous invitent pour aller dîner. Et je sais plus de quoi on parle pendant le repas, mais à un moment, mon mec dit un truc au sujet de ma famille. Là, je me retourne vers lui. Je lui dis, mais Seb, tu sais que toute ma famille est morte? Énorme blanc. Personne ne sait quoi dire, tout le monde me regarde. Ben, je me dis, c'est bon, j'ai gagné. Jamais il va oser surenchérir là-dessus, alors que ce sont ses collègues de travail, que c'est la première fois que je les rencontre. J'ai gagné. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Et tout doucement, il me répond. En même temps, si t'avais pas grillé ce stop...
Faire rire sur scène, une série documentaire de Romain de Becdelièvre et Anne de Pelchin. Épisode 4.
Rire dans le chaos.
Le bizarre, l'incompréhensible... Ce qui fout la trouille aussi, la poésie, les ruptures, le vide, la dépression. Tout ça, ça fait rire. Enfin, ça me fait rire.
What a great time to be alive if you love the theater of the absurd.
Fanny Ruet. Humoriste.
J'aime pas quand on dit que je fais de l'humour trash ou quoi, c'est plus juste sans filtre. Et je vais dire des choses qui peuvent des fois être un peu honteuses ou qu'on n'a pas envie d'admettre au sujet de nous-mêmes. Et ça, je vais essayer d'en parler parce que je trouve que c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes, quoi. Ce qui est un peu sale.
Comment on enlève le filtre ?
C'est dur au début, hein. C'est dur. Il faut vraiment se mettre dans la tête que personne qu'on connaît va le voir. Alors que si, hein. Mais il faut essayer d'arriver à se détacher du fait que un jour ma mère sera dans la salle, mes potes vont l'entendre, machin. Et puis je pense qu'il faut vraiment garder très très fort en tête que c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes et que moi ce qui m'a le plus touché dans des œuvres, dans des histoires, ce sont les moments où le personnage principal, il est pas tout net, où il a des comportements un peu honteux et tout, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand on est normaux et qu'on est faillible. Je trouve assumer la personne faillible qu'on est, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans l'art, sinon ça n'a pas d'intérêt. S'il n'y a pas d'aspérité, ça n'a aucun intérêt.
Comment on compose avec la honte, avec ce sentiment de la honte justement ?
C'est très dur au début, puis une fois qu'on a vu que ça pouvait toucher les gens, là ça ouvre un peu des portes de « ok, si ils ont accroché, même quand je me suis un peu mis à poil, ça peut aller ». Et donc ça, je trouve qu'on a besoin de se rassurer une première fois pour voir que ça marche. Maintenant, à l'inverse, si on essaye une fois d'y aller de manière plus honnête et que ça marche pas, là, c'est vite flippant, quoi. Ça peut vite être tragique.
C'est ça, faut que les gens se reconnaissent un peu.
Ouais, je pense que quand on parle de sujets un peu plus honteux, c'est là que ça va parler aux gens et que tout le monde va se dire « Ah, c'est cool qu'on soit pas les seuls ».
Le stand-up, c'est un rire public. Parce que si on rit tout seul chez soi...
Guillaume Aurignac, critique.
On va se dire qu'en fait, ce stand-up-là... éclaire notre propre marécage à nous, notre propre bout. C'est-à-dire que si on ouvre le cerveau d'un individu, il y a les petits fils qui sont connectés à la civilisation et derrière, il y a un marécage et une boue noire qui est vraiment la psyché tordue qu'on a tous au fond de nous. Sauf que quand on est tout seul chez soi, on a l'impression d'être tout seul avec cette boue-là. Le fait de rire en public sur cet affranchissement des tabous, eh bien, on se rend compte que tout le monde comprend au même moment à quel point il y a au fond de nous cette espèce de remugle nauséeux, cet appel à vouloir franchir tous les tabous, on l'a tous de la même manière. Mais évidemment, on a un surmoi, on est poli, on a une civilité, jamais ça sortira, sauf pour les psychotiques, ou les grands criminels, ou enfin, et puis ceux qui finissent au tribunal. Mais ça sort à ce moment-là, verbalement, par l'outil du langage. C'est quasiment une psychanalyse, mais une psychanalyse par l'humour, et c'est une psychanalyse collectif, c'est l'intérêt de le faire collectivement aussi.
Je sais pas exactement ce que ça veut dire trash. Je me demande tout le temps qu'est-ce qui est vraiment trash.
Amandine Lourdel, humoriste.
C'est comme, pour moi, qu'est-ce qui est vulgaire. Pour moi, la vulgarité, c'est pas de dire des gros mots, en fait. Quand tu bosses, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui te reviennent. Le fait de pas avoir d'enfant, je pensais pas que j'allais en parler autant. Je pense que c'est mon inconscient qui a bossé, ou je sais pas. C'est quand même un thème qui revient beaucoup chez moi. Alors que j'avais l'impression que c'était pas du tout quelque chose d'omniprésent dans ma vie et dans ma tête. Mais dans mon œuvre, ça revient beaucoup, donc je me dis que c'est forcément quelque part. Et l'organique, c'est hyper important pour moi. Genre, j'ai été élevée comme ça, en fait. Tu vois, les odeurs des autres, c'est un truc qu'on en parle vachement dans ma famille. Le corps et tout, c'est un truc qui est hyper important dans ma vie. Et donc, ça fait partie des trucs sur lesquels j'écris, quoi. Ouais. Les détails du corps et tout. Et encore, il y a plein de trucs que je me retiens de dire, je dirais peut-être dans les autres spectacles.
Sophie Pérez, metteuse en scène.
Shakespeare, quand il jouait les pièces, dans la salle, les mecs gueulaient, ils vomissaient, les femmes accouchaient, ils lançaient des trucs sur scène. Enfin, on est loin, loin, loin de ce qu'on nous raconte aujourd'hui, où on se fait chier sur un Shakespeare pendant 4 heures en nous faisant croire que le problème, c'est la prise de pouvoir, que le roi est devenu fou. Ok, mais il y avait un truc beaucoup plus trivial et on était plus proche de Daumier. Dans l'écriture, je veux dire, que dans un espèce de truc respectable, lent, avec une poésie sombre qui ne serait que ça. Et Shakespeare, ça rigolait pas mal, hein. Et c'était quand même des représentations. Alors, c'est pas du stand-up, c'est pas les bronzés, mais on est dans une violence et une appétence d'un truc populaire qui est super trivial. Hein. Et l'écriture est très, très drôle.
En fait, tout le corps de la civilisation contemporaine fonctionne sur des tabous et des interdits, et on va interroger ces interdits-là, et on va les interroger sous forme de blagues. Et plus on va rire, plus on va se rendre compte que ces interdits sont des arbitraires, et on ne sait pas ce qui les fonde, en fait. On voit bien l'intérêt qu'on a à les suivre, mais on ne sait pas ce qui les fonde, à part le fait que ça éviterait peut-être le chaos, je ne sais pas, ou l'anarchie, voilà. Mais c'est le rire qui révèle l'arbitraire de ces interdits-là. Et on a besoin d'en rire.
C'est vertigineux aussi, des fois, c'est vrai. Des fois, on se dit, ah bon, mais c'est, du coup, t'as rien, et puis paf, rien. Et puis, bon, et puis en plus, tu parles toute seule.
J'ai tendance toujours à insister sur le fait que, dans le carnaval, sacré et obscène, sont très proches.
Claude Gagnebet, folkloriste, 1972.
Ces deux valeurs qui sont absolument conjointes dans le carnaval. Et s'il fallait résumer ce que je pense très profondément du carnaval, je pense qu'il s'agit d'un ensemble religieux très ancien, pré-celtique et peut-être même pré-indo-européen, qui faisait appel à toute une série de valeurs que, généralement, nous condamnons. Ces valeurs, ce sont essentiellement les valeurs, disons, de la scatologie et de la sexualité. C'est donc un monde général que l'on pourrait appeler du dessous de la ceinture. Et puisque c'est un monde à l'envers, bien entendu, ce dessous de la ceinture va passer au-dessus de la ceinture. Puisque l'homme est considéré comme à l'envers.
Pas comme si allemand, essayiste.
La fête des fous, c'est le moment où en décembre, au sein même de l'église, on inverse tout, le truc carnavalesque. C'est-à-dire que les prêtres se retrouvent dans le public à se déguiser et à faire les cons, tandis que montent en chair les farfelus, quoi, les excentriques, les comiques, je sais pas, enfin les fous, ce qu'on appelle les fous, et font à ce moment-là des sermons joyeux, des sermons à l'envers, quoi. Et ensuite, on rentre dans des transes, les gens se déshabillent, ils font des cris de cochon, ils sortent de l'église, ils jettent des excréments sur la foule, enfin bon, ça devient, et puis ça se termine dans les cimetières. En gros, on baisse sur des tombes à la fin. C'est ça la fête des fous quand même, hein. C'est du sérieux, quoi. Alors, pour l'Église, c'était l'équivalent des Saturnales et du Percale. C'était des transes païennes absolument détestables, mais qui démarraient toujours un peu comme un spectacle de comédie. puisque c'est une scène, quoi. Une scène avec un type qui fait un sketch.
C'est quoi le pouvoir du rire carnavalesque pour vous?
C'est de compenser l'inégalité de fait par une égalité de principe. Il y a une égalité de principe, ou du moins il y a une égalisation de principe entre les hommes. Le carnaval rappelle aux hommes qu'il est arbitraire qu'il y en ait qui soient riches et d'autres qui soient pauvres, qu'il y en ait qui soient beaux et d'autres qui soient laids, qu'il y en ait qui soient des hommes et d'autres qui soient des femmes. Tout ça, c'est arbitraire. C'est l'arbitraire affreux de l'arrivée au monde dans des conditions qu'on n'a pas choisies. Et donc, pendant la fête carnavalesque, on change de rôle. C'est pour ça aussi qu'une des figures clés du carnavalesque, ce sont les lépreux, parce que ce sont les plus désavantagés des humains. Et c'est une idée de Guignebé que au carnaval, en réalité, le masque de carnaval, c'est le visage du lépreux. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas lépreux se masquent souvent avec des crêpes, c'est-à-dire avec donc une forme de palisse, se le foutent sur la tête. Mais ça, on pense aussi aux tartes dans les films burlesques. De prendre un gâteau et de le mettre sur la tête de quelqu'un, c'est pour que son visage devienne pareil à celui du lépreux et donc qu'on lui rappelle, tant mieux pour lui, mais c'est arbitraire qu'il ne soit pas lépreux lui aussi. Je traduis les idées de Guignebé sur le carnaval. Et donc, le rire carnavalesque, sa fonction, c'est de rappeler aux hommes qu'il n'est pas légitime qu'il y ait de l'inégalité parmi eux. Que c'est pas une décision de la justice divine.
Oui, vas-y, t'arrêtes pas. Attends, retiens-le, continue. Oui, tire l'élastique.
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, cours de clown d'Aurélien Ploquin.
Je t'aime profondément.
Allez, continue, on aime ça. Là, ça rigole. Encore un tour. Un petit tour de paravent. Oui, un petit tour de paravent.
Je t'aime profondément.
Renvoie ton étonnement, face à, tu vois, c'est important ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est pour moi.
Je t'aime profondément.
Oui, continue avec nous. Pousse-le plus loin, voilà, c'est ça. Il a perdu la parole. Appuie-toi sur elle se marre. Garde ce truc pour lui dire. Dis-lui comme ça. Public! Il te l'a dit.
Je t'aime profondément. Oh là là.
Ouais, vas-y, fais-en des caisses.
Oh là là.
Avec nous.
Je...
Avec la petite mèche là, c'est bien la petite. Ensemble, ensemble.
En fait, moi je dis souvent, je pourrais faire du théâtre normal.
Sophie Pérez, metteuse en scène.
D'une façon super simple. C'est-à-dire un truc qui est un peu beau, un peu minimal, avec et puis les mecs qui rentrent à droite, à gauche. Mais après, c'est des modalités de tout ça, moi, qui m'intéressent. C'est justement le moment de la rupture, de ce qui est donné à voir, de la beauté qui devient terrible, le sérieux qui devient complètement con. Et c'est tous ces allers-retours-là, je pense, que je traficote. Et même pour moi, c'est-à-dire que quand une scène fonctionne et qu'elle aurait une sorte de chose normale, je sais pas comment l'appeler autrement, il faut que je le dézingue.
Le monde entier est un théâtre.
Le monde entier, monde entier, monde entier.
Et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs, mais ils ont tous leur entrée et leur...
La meringue du souterrain, spectacle de la compagnie du Zérep.
Bad fucking bad vergogne. Ils ont tous leur entrée et leur sortie.
Vas-y Delphine.
Le plus russe.
Tchekhov. La mouette, 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 mouette.
Moi j'ai beaucoup de fou rire en répète.
Dans notre métier.
Et c'est comme, je me disais, le fou rire c'est vraiment l'histoire du passage à l'acte. C'est-à-dire que le corps, tout d'un coup, ça fait du bruit. On parle plus là quand on rit. On est comme des andouilles. Et nous, aux EREP, c'est comme de la drogue, le rire. C'est vraiment, c'est comme une substance qu'on prend. C'est-à-dire que, alors il y a les modalités, je dirais, du travail du EREP qui sont, et la chose plastique, les textes, les commandes à des auteurs, etc. Puis après, on travaille en impro. Et c'est vrai qu'en impro, on fait que rire, en fait. Mais c'est très, c'est très étrange, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, on rigole. Je sais pas, avec les histoires d'accessoires, d'objets, une perruque, une gueule. C'est comme si on faisait des crobards, en fait. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à glousser. Par exemple, l'avant-dernier spectacle qu'on a repris, là, ou avec lequel on repart en tournée, la meringue, sur le début de la première lumière, ça s'allume d'un coup d'un seul. Et ça me fait beaucoup rire, ça. Et pourtant, c'est un truc de lumière, hein. Mais l'idée que tout d'un coup, le spectateur est peinard, on entend les gens, ils papotent avant que ça commence, et il n'y a pas du tout le temps normal du spectacle qui s'allume. C'est-à-dire que ça s'allume comme quelqu'un qui aurait allumé par hasard une pièce. Donc, ah merde, j'ai allumé, j'éteins. Et donc, d'allumer très très fort d'un coup...
C'est un éclat de bizarre, quoi.
Ouais, je me dis, j'entends les gens qui parlent, et bam, tout d'un coup, ça s'allume. Et je me dis, là, on va plus rigoler. Sauf qu'elle arrive avec un gros visage qui fait rire. Donc, ça me fait rire, par exemple. Et tous les soirs où ça s'allume, ça me fait rire. Pour moi, le fou rire, et le rire même techniquement avec le corps, hein, c'est le passage à l'acte. C'est un truc qui nous déborde. Et on peut pas dire, le spectateur qui a ri ne peut pas dire, j'ai pas ri. Il est prisonnier de sa propre connerie. Nous, on a eu des spectateurs, c'était génial, avec le couple, où il rit pas du tout, parce que quand même, là, faut pas déconner. Et il y en a un des deux qui a des fous rires, parce qu'il ose pas rire devant sa femme ou son mari, par exemple, d'un mec qui fait le canard qui pète. Donc, le rire devient une espèce de poison. J'aime bien l'idée du poison, du rire comme un poison. Mais comme un poison salvateur. Donc, c'est compliqué, hein, mais...
Mais qui se diffuse comme un poison, en
ouais,
tout cas.
Ouais, ouais, ouais.
Hey, casse-toi ailleurs, casse-toi ailleurs. Va te cacher ailleurs. Va te cacher ailleurs. Encore, encore la même chose. Ok, merci. Mais voyez, après encore, l'exercice n'a pas de... Enfin, l'exercice n'est qu'un prétexte. Tu vois, après, ça devient autre chose. Coucou. Coucou. Ils jubilent tous les deux ensemble. Et nous avec. On est embarqués. Allez, deux autres.
ville, lumière, honte, cours jardin. Et là, au bout d'un moment, je vais dans les autres latéraux.
La meringue du souterrain, spectacle de la compagnie du Zérep.
Là, je peux rester 6 heures, mais il faut qu'on me voie. Et je reste ici, ça dépend, là, je tourne comme ça, hop. Il faut qu'on me voie dans tous les coins. Puis au bout d'un moment, je reviens comme ça, je me suis Gilda. Et là, je suis le canard qui pète. On me voit, Gilda. Bien qu'on me voit. Faut que tu me suives, hein, Gilda. Faut bien qu'on voit que c'est un canard. Un colvert.
Le rire s'en fout de la dignité. Il a juste envie de tirer vers le bas tous ceux qui s'élèvent un peu trop haut.
Joss Houben, comédien et pédagogue.
Et le spectacle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il déconstruit de plus en plus. À la fin, il rit avec n'importe quoi. Je joue un camembert, je peux faire avec mes doigts un coucou, comme ça, ils riront. Donc on est dans une espèce de délire. Et après, il y a un silence très intéressant.
Parce qu'il y a de l'inquiétude dans ce silence.
Oui, il y a une espèce d'inquiétude, il y a une espèce de... Quelque chose a été bousculé, déstabilisé, on est un peu dans une perte de repères aussi. À la fois, ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. On voit vraiment le public se détendre. Il y a des gens qui se tapent sur les genoux et tout. C'est, tu vois, et ça déchaîne parfois un peu, il y a un fou rire. Ça devient quelque chose d'autre. Dans l'écriture, si on part d'écriture, si on va plus loin, on entre dans une zone beaucoup plus mystérieuse ou fabuleuse ou inquiétante, mais pas nécessairement négatif, mais pas rassurant.
Louis Siquet, 2013.
Tout le monde a un conflit dans son cerveau, entre les bonnes et les mauvaises pensées, en espérant que les bonnes gagnent. Dans ma tête, il y a toujours les deux. Il y a toujours la chose à laquelle je crois, la bonne chose, et puis il y a cette chose. J'y crois pas, mais elle est là. Il y a toujours cette chose et cette chose. C'est devenu une catégorie dans ma tête que j'appelle « bien sûr, mais peut-être ». Je vous donne un exemple. Bien sûr que les enfants allergiques aux noix doivent être protégés. Bien sûr, nous devons enlever les noix de leur nourriture, rendre accessibles des médicaments pour eux. Et tous les fabricants ou fournisseurs de nourriture doivent être informés des allergies aux noix mortelles. Bien sûr. Mais peut-être que si toucher une noix te tue, tu dois mourir. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mon Dieu. J'ai un neveu allergique aux noix. Je serais dévasté s'il lui arrivait quelque chose. Mais peut-être. Peut-être. Si on laisse faire pendant un an, on est définitivement débarrassé des allergies aux noix.
Louis Siquet, c'est une histoire, oui, très intéressante. Les 15 premières années de sa carrière, c'est quelqu'un qui était très fort pour raconter des blagues. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais qui se répétait. Alors, c'était ses propres blagues, pour le coup, c'était pas celles des autres, mais il avait tendance à les répéter. Mais en même temps, il était très drôle, il savait très bien les raconter, ces blagues-là. Il a vraiment une énorme présence scénique, il est très fort pour ça. Et au bout de 15 ans, il est rentré en dépression parce que ça ne le satisfaisait plus. Il avait l'impression de se répéter et il en avait marre d'être celui qui veut être drôle. Il trouvait ça pas très drôle d'être tout le temps celui qui veut faire rire. Il avait une expression là-dessus, il disait « il n'y a rien de plus triste qu'un clown » et un clown, c'est celui qui veut faire rire. Donc la question n'était plus pour lui de faire rire, la question était de dire quelque chose de vrai. Et c'est à partir de la vérité qu'on peut commencer à développer un rire qui est plus intense, plus profond, plus juste. Et donc, il s'est sorti de cette dépression-là. Il a travaillé ses spectacles sur le modèle de Georges Carlin, qui avait cette habitude-là de changer de spectacle toutes les années. Et Louis C.K. y est arrivé, parce que chaque année, il avait quelque chose, une nouvelle expérience personnelle à raconter. Et il est parti de cette vérité-là. Et parfois de vérités qui sont innommables, indicibles, difficiles à raconter. Le fait qu'à un moment, il avait de mauvais rapports avec ses petites filles qui étaient des bébés, qu'il ne les aimait pas forcément, ou qu'elles étaient insupportables, qu'il commençait à détester sa femme. Ça a fini par un divorce. Mais il a commencé à raconter ça avant même de divorcer avec elle sur scène. Et au risque... Parce que, en fait, en mettant sa peau sur scène, on enlève son masque social pour mettre son masque de clown, évidemment. Mais on enlève son masque social et il y a une sorte de paradoxe et de contradiction qui fait que pour faire rire un public avec son masque de clown, on s'est montré à nu devant ses proches, devant ses intimes, au risque de les blesser, de créer des blessures sur lesquelles qu'on ne pourra pas guérir. Il y a quand même cet art-là dans le stand-up. C'est un art un peu de funambule, un peu dangereux quand même pour le stand-upper. Et s'il ne va pas jusqu'à cet endroit-là, il peut être drôle, il peut ambiancer la soirée, mais il va peut-être rater quelque chose.
Bien sûr, si vous partez en guerre pour votre pays et que vous êtes tué ou blessé, c'est une tragédie terrible. Bien sûr. Bien sûr. Mais peut-être, peut-être, si tu prends un fusil et que tu vas dans un autre pays et qu'on te tire dessus, c'est pas si bizarre. Peut-être que si tu te fais tirer dessus par le mec sur qui tu viens de tirer, c'est un tout petit peu de ta faute.
C'est quoi, c'est il accède à une dimension supérieure ?
Il accède à une dimension supérieure du rire, alors qu'est le grand... rire démoniaque dont parlait Baudelaire, qui a écrit sur le rire, et qui est, pour lui, le rire, le grand rire, c'était un rire qui s'approchait de l'horreur, en fait. C'est-à-dire que quelque chose d'incongru et de parfaitement, parfois, abject pouvait déclencher un grand rire salutaire, qui racontait une sorte de vérité. C'est-à-dire qu'au fond de la vie quotidienne, au fond de la vie moderne, il y avait peut-être des trappes d'horreur planquées sous les tabous sociaux, sous l'édifice de la civilité sociale. Et ces trappes d'horreur, le rire les ouvre, les regarde au fond des yeux. Et ce qui permet ça, ce qui permet d'affronter cette horreur-là, ces tabous-là, c'est parce qu'on va en rire. Si ouais. On n'en riait pas, on serait complètement absorbé par ça.
Parce qu'en même temps, dans Dracula, à chaque fois, ils ont des rires comme ça, sardoniques, c'est quand même... Ça, c'est pareil.
Mais le rire du méchant.
Oui, on se dit pourquoi à chaque fois, il y a... y a ce truc. Et je pense qu'on va se faire une série d'impro sur le rire hanté.
C'est vrai qu'ils rigolent tous.
Ouais. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils font un truc horrible. Il va sucer le sang d'une jeune vierge. Et puis, il part avec sa cape en faisant... C'est quand même drôle, ce truc. Et je pense que ça va être un axe, ça aussi. Le rire sardonique dans les châteaux hantés. Et puis, la chose hantée aussi. La chose hantée me fascine, quoi. Tiens, je me dis, tiens, s'il y a un des... S'il y a un des châteaux qui est hanté par Bourville, qu'est-ce que ça donne, quoi ? C'est-à-dire, je me dis, hanté par la chose comique.
Vous avez peur, mais faut y aller. C'est ça le jeu. Vous avez peur, mais faut y aller. Mais vous avez peur, mais faut y aller.
Mais je sais pas.
Quoi ? Hein ? Mais on comprend pas. Vous allez quoi ?
Je vais à quoi ?
Vous allez quoi ?
Je vais là.
Vous allez quoi ?
Je
vais.
Non ? Hein ? Je vais là. Ouais, je vais.
Non, mais on comprend rien.
Quoi ?
On comprend rien.
Je vais.
Quoi ?
Je vais. Là, je vais.
Hein ?
Là !
Je vais quoi ? Ouais. Hein, quoi ? Oui, bah dites-lui.
Je vais dire.
Oui, allez-y, comme ça.
Je reviens.
Oui, c'est ça, mais dites-lui comme ça. On en arrive. Oui, non, mais c'est bien. Alicia, voilà, de temps en temps, qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Ça, on est important, le regard universel. Le regard.
Je t'aime !
Public !
Je t'aime!
Oui.
Je t'aime profondément!
Oui, public, vous l'avez dit, ça y est!
Ouais. Quelque chose de très très beau que vous leur avez dit à un moment, c'est vous avez peur, mais il faut y aller.
Et que c'était comme une espèce de dialectique, ça. C'est-à-dire, faut y aller, mais on a peur, mais faut y aller. Et ça, c'est ça qui. C'est un des tendeurs du comique et du clown.
Il faut arriver et accepter d'être vide, accepter le vide de l'existence, quelque part.
Aurélien Ploquin, professeur de clown.
Ça, c'est ça, le vide du clown, le vide du burlesque, il est là et on ne sait pas, personne ne sait pourquoi. Donc on accepte ça et on accepte ce qui va arriver. Il faut avoir ce dénuement-là, cette acceptation, pour pouvoir y aller et accepter ce qui va se passer. En tout cas, dans un premier temps. Mais après, c'est travailler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on écrit les numéros, on rejoue la même chose. Et là, c'est les comédiens qui sont là, les pilotes qui savent refaire les choses. Mais cet endroit de spontanéité, de présence, c'est d'accepter cette peur du vide fondamental. Cette peur du vide qui joue beaucoup. C'est ça qui joue énormément. Nous, public, on est touchés parce que ce qu'on voit sur scène, ça nous renvoie à notre réalité. Pourquoi la chute, c'est le gag le plus universel? On peut aller dans toutes les cultures, tu fais une chute, tu vas faire rire. Mais c'est parce que ça nous arrive à tous. On chute tout le temps dans la vie, on se prend tous au moins une fois dans notre vie une porte vitrée ou un poteau dans la rue. Mais bon, c'est anecdotique, mais ça se transpose dans toute la couleur d'un récit d'un humain.
C'est terrible de tomber. Hein? Quand on voit quelqu'un tomber dans la rue, ça ne va jamais rire. Il faut savoir que cette personne est en sécurité pour qu'on puisse rire un peu. Un corps d'une personne adulte qui tombe, ça fait un bruit. Bouf. C'est très choquant. Un petit enfant qui tombe aussi, on l'aide tout de suite, on le console. Mais quand quelqu'un trébuche, ça dépend. Un clochard qui trébuche n'est pas drôle, il est déjà tombé. Mais quand le président est trébuché, c'est sur la une de tous les journaux. Le pape, une fois, il a trébuché et voilà, pouf, le pape trébuche. Parce qu'avec le pape, toute l'église catholique trébuche, vois ce que je veux dire. Tout le Vatican a...
C'est vrai que c'est drôle, c'est quand c'est les puissants qui tombent,
oui,
c'est fait plus rire.
C'est pas que les puissants, il y a les puissants, il y a une certaine valeur, une prétention. Quand je visitais Jacques Lecoq, il disait, ah oui, le rire, c'est la chute, il disait. Laissait un silence, et puis il disait, sauf quand le cheval tombe. Et c'est très intéressant. Il m'a raconté une scène dans Paris où il y avait des chevaux qui tiraient le tram, et il y avait un cheval qui a glissé, qui était tombé, qui était encore coincé par son harnais. Et comment, avec énormément de pitié, tout le monde a essayé de remonter cet animal. Et il disait ça. Après, j'ai compris parce que cet animal, il reste noble quelque part. Il reste intègre. Il n'a pas prétendu d'être quoi que ce soit. Il n'était ni riche ni pauvre, ni...
Il ne perd pas sa dignité dans la chute.
C'est ça. Ou sa prétendue dignité. Parce que fondamentalement, chaque être humain a sa dignité. Mais je constate que nous sommes sensibles à ça. Quand je trébuche, moi, les enfants, tu entends... Qu'est-ce qu'il trouve ça délicieux, un adulte qui se trompe, qui se casse le visage? Il trouve ça tellement super, et ça libère quelque chose. Mais le pourquoi de ça, je constate juste quand et comment, je ne pourrais pas dire, vraiment, honnêtement. C'est une question avec laquelle nous pouvons danser.
Ce qu'on sanctionne par le rire.
Adrien Desnouettes, critique.
Chez quelqu'un qui tombe, c'est l'idée même que l'être humain, Homo sapiens, ait cru se distinguer du reste du règne animal. Il s'est levé sur ses deux pattes, il a cru qu'il était supérieur du fait de sa conscience de la mort. Et donc, non, parfois, il y a des accidents et on tombe. Et donc, qu'est-ce que le rire, presque de hyène, vient signaler à ce moment-là? Ce qu'on vient cibler, c'est la vanité. Profondément la vanité humaine qu'il y a à se distinguer du reste du vivant.
Anna, Mr. Terry Gilliam, I sing for you. I've got two legs.
I've got two legs from my hips to the ground, and when I move 'em, they walk around, and when I lift 'em, they climb the stairs, and when I shave 'em, they ain't got hairs. I've got two.
J'assiste à la Comédie Française, il y a 15 ans, je crois. Racine. Je ne dis même pas lequel. Donc ça fait 3 heures d'Alexandrin, avec des super comédiens. Et le rôle principal était joué par un ami. Donc je suis allé le voir. Et à la fin, toute la compagnie se présente d'une façon très solennelle, ritualisée devant le public, le rideau tombe, et il est juste un peu trop en avant. Et le rideau tombe, sur lui, et il reste au milieu, tous les autres, on voit encore les pieds des deux acteurs à côté de lui, se drapent autour de lui. Et à ce moment-là, je sais pas, disons 900 personnes, dans une millième de seconde, ont décidé de ne pas rire. Parce que ça aurait été annulé tout le spectacle. Tout le spectacle aurait été complètement, aurait fait pouf si on avait ri. C'était vraiment un truc incroyable. Et il a gardé son sérieux. Il a pris juste un petit temps. Il a fait un petit pas en arrière. Ouf, et le public est tombé, et l'applaudissement a continué. Donc j'ai dit, c'est quand même... Ah, c'est pour ça qu'il faut être observateur, il faut sentir à ce moment-là qu'est-ce qui vient de se passer. Il vient de se passer un truc énorme.
On m'avait raconté un spectacle de flamenco, un peu genre cabaret, grand luxe, qui tournait avec plein de danseuses de flamenco. Et il y avait un truc qui sortait du plateau, et en fait la machinerie s'est emballée. Tout s'est pété, donc il y avait les danseuses de flamenco, le truc qui sort du sol. Et je me dis, mais ça, c'est le spectacle ultime.
Ça a à voir avec la catastrophe ou le
oui,
rire.
Oui, avec la débandade, la catastrophe, la dégringolade, le drame, du coup, après, au bout du tunnel. Mais c'est toutes ces étapes. Je dirais que le rire, c'est la catharsis de la démolition. Je ne sais pas comment dire. Ça permet d'envisager... la fin du monde, en fait.
Comme on est comme à la maison, j'ai ramené ma petite flasque de Calva.
Mocky Bar, à Paris, novembre 2024.
Et pour les nouveaux, je vous dis ça, j'ai pour habitude de commencer le spectacle en payant des coups à celui ou celle qui a une bonne nouvelle à annoncer. Donc j'ai ramené du Calva et je paye un shot de Calva à celui ou celle qui a une bonne nouvelle à annoncer. Donc là, je crois que aujourd'hui c'est vraiment la journée où tout le monde a des bonnes nouvelles annoncées. Il y a Trump qui vient d'être président. En marchant, je me suis fait chiquer par un chien. J'étais à la réunion de succession de ma grand-mère qui est morte. Et j'y étais parce que mon père est mort, donc j'étais le représentant. Donc vraiment, c'est une belle journée aujourd'hui.
Bon un coup.
C'est moi qui ai gagné la bonne nouvelle.
Bien sûr qu'on a besoin de rire en ce moment, mais ça veut dire quoi, on a besoin de rire, en fait? Si tout allait bien dans le monde, on aurait aussi besoin de rire, en fait. C'est pas que du médicament, en fait. On est fait pour ça, c'est autre chose, quoi. Parce que le rire, ça passe par la joie, et la joie, ça fait partie de nous. Et les gens, ils disent tout le temps, ah, surtout en ce moment, mais... Déjà, c'est la merde en ce moment, mais est-ce que l'histoire de l'humanité, ça n'a pas tout le temps été la merde, en fait? Je sais pas. Et que rire, c'est le propre de l'homme, en fait. Ça fait pas... Pour moi, c'est comme manger, dormir, se reproduire. Enfin, tu vois, c'est vital. Enfin, ça fait partie des trucs que... Je me demande s'il y a des gens qui rient jamais, tu vois, qui n'ont vraiment pas ce truc-là. Ça doit être possible. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas le réflexe d'avoir du second degré pour tout.
Moi, je trouve qu'on a l'impression de vivre dans le Muppet Show. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un monde de grosses marionnettes. Là, Trump, depuis 3 jours. Là, je me disais, il y avait Trump, il y avait les inondations à Valence. Je voyais des images et je me dis, c'est entre un film catastrophe et le Muppet Show. On est dans un truc qui est déjà... c'est hilarant et terrible. On est là-dedans. On est en train d'arriver à notre propre fin... je sais pas, il y a une chose terrible là qui arrive et qui a une forme. Hein.
De la blague du monde, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que je me disais, les bagnoles à Valence avec tous ces morts, tout ce truc qui part en vrille, quoi. Et Trump qui ressemble quand même à un, Ouais, ouais, c'est une espèce de grosse marionnette terrible.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
C'est fou quand même ça. Je regardais les caricatures et je me dis non, le vrai est quand même beaucoup plus drôle. Et ça, c'est dingue. Et on est dans un... Ouais, c'est comme un truc fake, c'est comme un... C'est très, très étrange. C'est-à-dire que pour moi, qui a été recherché depuis toujours la catastrophe possible, le drame possible, la figure monstrueuse, je me sens rattrapée, en fait. C'est-à-dire que je me dis, maintenant, comment on va redresser de l'autre côté? Comment on va... Est-ce que c'est toujours drôle? Où est-ce qu'on va aller chercher le truc pour s'en sortir? Mais vraiment, hein.
Il y a un moment donné du spectacle, vous imitez le bruit de l'époque.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous le faire, si vous voulez?
C'est quelque chose comme... Ah, c'est ouais, un long appel à l'aide. Hein. On fait ce qu'on peut, mais c'est dur. Hein. C'est-à-dire que tout est anxiogène et que... Actuellement, c'est assez dur. Même si on se sent bien, on se sent un peu coupable parce que parce qu'il y a énormément de gens qui se sentent pas bien et que moi, enfin j'ai la chance d'avoir énormément de privilèges, de faire un métier que j'aime et tout. Mais ça reste compliqué pour énormément de gens et donc faut être conscient de ça et ne pas faire comme si ça n'existait pas. Pour moi, justement, c'est dire c'est la merde. Venez pendant une heure et demie. On va parler de ça de manière marrante et se détendre et prendre tout ce qu'on peut prendre de la vie, quoi.
Oui, mais c'est un rire qui fuit pas la merde.
Non, 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 ça sert à rien, ça. Ça sert à rien parce que sinon, les gens, ils vont sortir et ça va leur retomber dessus. Alors que si on l'a accepté, ils vont se dire « Ouais, ouais, c'est la merde, mais c'était chouette et on en garde quelque chose ou on va voir ça différemment. » Ouais, je pense qu'il faut l'accepter, il faut l'intégrer même.
Oui, c'est ça qui est très puissant et c'est là où ça a du sens. C'est-à-dire on ne va pas vous proposer, à vous spectateurs, une bulle où vous allez vous évader.
Non, c'est pas un cache-misère, c'est une perspective plus joyeuse.
On va parler santé mentale, les amis, on va parler santé mentale. Je n'ai aucune légitimité à parler de santé mentale. Moi, j'ai pas de formation en psychologie. Je suis plutôt de l'autre côté de la barrière, le côté où on saute.
C'est vrai que dans les années 90, on était dans une phase de paix, de progrès, de démocratisation, avec la fin des grandes idéologies mortifères, la fin de l'histoire.
Olivia Gazalet, philosophe.
Et c'était un âge qui était pacifique, individualiste, cool, joyeux. Et l'unique préoccupation on parlait beaucoup de l'individualisme, du bonheur individuel, une société un peu insouciante comme ça. Et dans ce contexte, c'est vrai que la dérision universelle, l'ironisation permanente, avait quelque chose d'un peu horripilant. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même horizon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on assiste au retour du tragique dans nos sociétés, dans nos vies, et des grandes peurs collectives, et des vraies grandes peurs. Donc, il y a les pandémies, il y a évidemment la guerre, il y a la montée du fascisme, il y a la pauvreté, et il y a évidemment, j'aurais dû commencer par ça, le péril écologique majeur. Donc, en fait, là, les jeunes vivent une vraie angoisse, et je trouve que le rire auquel on assiste est un vrai rire de résistance, un vrai rire de défense, un vrai rire de protection, et pas seulement ce petit ricanement impertinent et frivole qui pouvait agacer certains dans les années 90-2000. Moi, personnellement, je trouve qu'on rit jamais assez, et qu'aujourd'hui, plus qu'à aucune autre période, on a vraiment besoin de rire pour rendre tout simplement notre horizon supportable.
Les contes et légendes du vieux Japon disent qu'un jour, effrayé par un grand fracas, Amaterasu, la déesse solaire, se réfugia dans la grotte d'Iawado, dont elle obtura l'entrée par une énorme pierre. L'univers fut dans la nuit. Les autres dieux tentèrent de la convaincre de ressortir en employant des arguments rationnels. Mais c'était en vain et la lumière ne revint pas. C'est alors qu'apparut Uzume, qui posa à terre des colliers de pierres précieuses, un miroir devant l'entrée de la grotte, et commença à danser. Puis elle se déshabilla lentement, en rythmant son striptease de mouvements joyeux, qui firent éclater de rire les dieux regroupés autour d'elle, et intrigués, Amaterasu sortit de la grotte, demandant la raison de tout ce boucan. Uzume fit un geste en direction du miroir, et répondit que les dieux se réjouissaient d'avoir trouvé une déesse plus belle qu'Amaterasu. Le temps que celle-ci, avançant vers la glace qui lui renvoyait son reflet boudeur, se rende compte de la ruse, le dieu de la force avait refermé la grotte et la lumière était pour toujours revenue dans le monde. Vous ai-je précisé, Kuzume est la déesse du rire?
Qu'est-ce que cette légende nous dit du rire en général, pas comme tellement pour vous?
Pour moi, elle dit que le rire a une fonction très précise, qui est de répondre à la nuit et à la violence du monde. L'idée que la déesse de la lumière se cache, que l'univers est en la nuit, et que la seule chose qui fasse revenir la lumière, c'est un striptease comique. C'est-à-dire qu'il faut mêler à la fois les éléments de désir, de plaisir et de joie. C'est très simple, hyper simple. Mais c'est quelque chose dont on a toujours besoin de se ressouvenir quand on va mal. Inutile de dire. Non, mais on rirait pas si on n'avait pas besoin de rire. Pour moi, c'est intéressant que ce soit des Japonais qui aient trouvé cette idée-là, parce que ça me faisait penser aussi cette phrase qu'un Japonais m'avait dit, qui est « Au Japon, les gens ne parlent que si ça va pas. Quand ça va, ils n'ont pas besoin de parler. » Et donc l'idée de « on est silencieux », d'adhésion, d'adéquation, de plaisir, et là où les problèmes commencent, on a besoin de la parole et on a besoin de l'humour. Mais sinon, on n'en a pas besoin.
J'ai même des souvenirs de moments tragiques, tu vois, dans la vie de ma famille, où pour désamorcer le truc, il y a quelqu'un qui fait une vanne, quoi. Et pour moi, c'est de la survie, en fait. Enfin, je comprends pas les gens qui disent c'est trop grave, on peut pas faire des blagues. Tu sais, c'est trop bien ce truc, par exemple, genre quand tu pleures, c'est que vraiment ça va pas, tu pleures et tout, et qu'il y a quelqu'un qui fait une vanne pour un peu désamorcer le truc. Et que tu ris en pleurant, et j'aime trop les moments comme ça, quoi. S'il y avait pas ça, des fois je me demande, tu sais, comme la musique, des fois tu te dis, comment ce serait un monde sans musique, quoi. Ou comment ce serait si on se reproduisait sans kiffer, tu vois, si faire l'amour ça existait pas. Des fois je me pense à des trucs comme ça, je me dis, mais mon dieu, si, tu vois, si on rigolait pas, si ça existait pas, ce truc-là dans notre cerveau, mais le monde ce serait tragique, quoi, vraiment, la vie ce serait de la merde, quoi.
Je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime.
Ouais. Contrairement à ce que l'on pense, la déprime n'est pas du tout due à l'époque, non. Ça vient uniquement du fait que vous avez pris la mauvaise habitude de sans cesse vous plaindre. Enfin, j'ai dit vous parce que moi j'ai arrêté, hein. Ah, c'est terminé, je déprime plus, je dramatise plus, grâce à une solution simple, la technique du « je t'emmerde !»
L'humour, il vient pour poser des questions, changer l'échelle, modifier les choses qu'on peut ressentir, et mettre de la distance aussi. Nous sauver, mettre de la distance. Moi, je dis souvent, quand je fais des ateliers où je me dis « tiens, celui-là, il n'a pas vu le loup », ou « celui-là, il a vu le loup », c'est-à-dire où est-ce qu'on a été ébranlé pour qu'en tout cas, la chose comique vienne s'inscrire dans une grande chose plus sombre, quoi, plus douloureuse.
De manière générale, je trouve qu'on est dans une époque qui est un peu dure avec la notion d'addiction.
Marina Rollman, un spectacle drôle.
Il me semble qu'il y a un vent de santé un peu à la californienne qui s'est abattu sur nous ces 10-15 dernières années. On s'est tous dit qu'il fallait tous qu'on soit souple, qu'on se mette au sport, qu'on fasse du yoga, qu'on médite, qu'on arrête le café, qu'on fasse gaffe avec l'alcool, qu'on fasse gaffe avec la clope, et pas le sucre, et pas le gras, et pas le machin, et qu'on fasse des câlins aux arbres, et qu'on fasse attention aux écrans, et blablabla. Sur le fond, sur le principe, je comprends. Évidemment, très belle impulsion. Esprit sain, corps sain, tout ça est magnifique. Je ne sais pas si on a choisi le meilleur moment de l'histoire de l'humanité pour se défaire de tous les plaisirs chimiques qui rendaient le monde supportable. Dans le sens où, je veux rien vous spoiler parce que vous avez l'air innocent, mais le monde est en flammes, grosso modo, hein, on est dans la merde jusqu'au cou. Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'on veut se mettre à produire des vieux en méga forme, super fit, complètement sobre, jusqu'à 103 ans, en pleine conscience, pour tout bien voir se péter la gueule? Alors que financièrement, on va avoir un problème de soutien des retraites. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer? Tu vois ce que je veux dire? À partir de 65 ans, tu légalises les drogues dures. Tu vois? Tu fais des rave parties pour les retraités. Ils partent dans une dernière grosse montée MDMA, cocaïne, le cœur lâche, tu vois? C'est plus sympa pour eux, c'est plus simple pour les finances publiques. Moi, je propose, hein, je ne suis que solution. Voilà,
La France est devenue d'un coup le pays où il y avait quasiment le plus de stand-up comiques et le plus gros usage d'antidépresseurs. Ça veut dire qu'il y a un des deux qui marche pas.
Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Dis-le.
Au revoir.
Encore, encore. Oui, vas-y.
Au revoir.
C'est le drame de devoir sortir, madame. Sincère, regarde-nous. Oui, la dignité, c'est bien.
Au revoir.
C'est fini après, c'est terminé. Il n'y a plus rien.
Au revoir.
Creuse l'enfer. C'est la fin pour vous. C'est terminé, après, il n'y a plus rien, madame.
Quelque part, le clown est toujours en urgence. C'est une urgence vitale d'être là. Et quelque chose, si tu sors d'une scène de quelques minutes ou d'une heure de clown, quelque part, tu dois être lessivé parce que tu as tout donné. Il y a tous tes enfers, il y a tout ton paradis, il y a toutes tes angoisses. Tout est là, tu donnes tout. Tu peux pas y aller à moitié. On est sous vapeur. C'est une cocotte minute qui est sur le point de siffler. Et de fait, c'est très dans les deux antagonismes, dans les deux opposés, alors que sont l'enfer et le paradis, si on simplifie. C'est cet équilibre permanent. On est toujours sur un fil en clown. On n'est jamais tranquille, on ne peut pas être tranquille. Quand on est sur scène en clown, on est prêt à tout recevoir. On est prêt à aimer, mais ce n'est pas aimer. On aime et il n'y a rien d'autre. Si on a peur, c'est la peur de mourir. C'est pas la peur, non. On a peur de mourir. Ça va toujours dans ces grands sentiments-là. C'est en ça qu'on amène toujours l'enfer et le paradis en clown sur scène.
Je pense que le rire a à voir avec la vanité et la peur de mourir.
Adrien Desnouettes, critique.
La peur de mourir, c'est connaître la fin du film avant même de l'avoir vécu. C'est quelque chose de complètement absurde. Je veux dire, faut pas oublier que la condition humaine est absurde. Et donc, pour s'en soulager, on va créer des croyances, on va se réconforter. Mais le rieur, comment il vous en soulage très ponctuellement? Il vous libère des toxines de vos angoisses, de vos peurs, en faisant rire. Et j'ai presque envie de dire que la toute première victime que vous allez faire, la toute première cible du rire, si on prend vraiment un recul très philosophique, c'est la mort. C'est la mort. On va se moquer de la mort, parce que de toute façon, on est tous embarqués dans le même bateau. Vous pouvez vous vendre le scénario que vous voulez, vous faire croire que vous serez sauvé, qu'une vie vous attend après. Libre à vous. Néanmoins, vous avez quand même... Vous êtes humain parce que vous avez peur de mourir.
Vous allez chuter, quoi.
Vous allez chuter, quoi qu'il arrive. Ça nous attend tous. Et on va chuter dans notre corps, on va chuter dans le vieillissement, on va chuter littéralement, parfois, devant tout le monde. Parfois, on va péter en public. C'est une forme de chute. C'est le corps qui vous a trahi. C'est la comédie du corps qui vous trahit.
C'est Oscar Wilde. Moi, j'aime bien cette histoire. Il est dans sa petite chambre miteuse et il sait qu'il n'en a plus que pour quelques heures. Et il est allongé sur son lit et il est dans la misère. Hein. Et il commande une coupe de champagne et puis il dit « Oh, je voudrais mourir au-dessus de mes moyens. » Et puis ensuite, après, il est là et il regarde son papier peint et il dit « Non mais ce papier peint, il est vraiment trop laid. Il y en a un de nous deux qui va devoir disparaître. » Et donc, c'est lui. Et c'est sa dernière phrase et il meurt. Donc, c'est papier peint qui a gagné. Mais vous voyez, c'est une façon de reprendre le pouvoir sur la détresse et sur le découragement. Ce sont des rires de résistance, voire de survie. Et ils nous sont plus nécessaires que jamais en ce moment, je crois.
À moi. Un très grand merci. Il y a une chose que je déteste, ce sont les bouchons. Voyez-vous? Ce soir, il a fallu que je m'en tape un énorme. C'est sur la voie express, il y avait un bouchon terrible. Et il m'a fallu une heure pour être ici.
Alors Andy Kaufman, au départ, il apparaît comme ça. Que ce soit dans ses spectacles ou que ce soit dans ses émissions. Ça commence toujours par un espèce de type qui a un accent très fort, mais qu'on ne peut pas identifier. Il a un accent qui ressemble presque à un accent indien, mais il dit qu'il vient des îles Caspiennes. Donc il a cette espèce de petite voix, oui, ça pourrait rappeler presque l'accent de Peter Sellers dans The Party, quoi. C'est une petite voix de mec gentil. Et il arrive, il vient pour faire des blagues. Et en fait, il n'arrive pas du tout à faire, il ne se souvient même pas de la chute, il commence une blague. Enfin, typiquement, il commence, il dit, alors voilà, ces deux pingouins qui sont sur la banquise, et à un moment, la banquise se fend, et il y a les deux parties de la banquise qui partent comme ça, chacun d'un côté, puis d'un coup, elles reviennent, les pingouins se disent salut, salut. Et après, j'ai oublié. Je sais plus ce qu'il y a. Il fait des blagues, c'est comme ça. Donc, c'est des sortes de blagues ratées. Et puis après, il dit, ben, je vais faire des imitations. Hello. Mais il a toujours la même voix.
C'est moi, Jimmy Carter.
Il a toujours la même voix. Il dit, salut, je suis Richard Nixon, mais avec sa voix d'avant. Ça, c'est génial. Et puis après, il avance comme ça. Il dit, maintenant, je vais faire le Elvis.
Le Elvis Presley.
Et là, alors, il se retourne. Il met un disque. Le disque, on a la musique de Richard Strauss, là, ainsi par les Zarathustra. Et il enlève ses vêtements de machin et on voit qu'il a derrière tout le costume d'Elvis et il tourne juste la tête sur le côté et on voit qu'il a la moue d'Elvis. Il a juste l'espèce de petit rictus de bouche et on se dit « Ah, mais en fait, il ressemble à Elvis. » Et il se tourne et il fait parfaitement l'imitation d'Elvis. Et alors là, tout le public, il est aux anges. Mais à chaque fois, mais ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que les gens, ils sont fait chier pendant 20 minutes, 25 minutes, mais ils étaient embarrassés. Donc il y avait des rires nerveux, il y avait de, je sais pas ce que je fous là, il y avait c'est gênant mais il me fait rire parce qu'il est tellement con, ça me fait rire. Ou alors c'est, enfin, ils savent pas pourquoi, ils rient un peu mais ils rient pas vraiment, ils savent pas quoi en faire de tout ce bordel. Et d'un coup, ils ont vraiment une imitation réussie et ils sont aux anges. Aux anges. Et c'est suffisant. C'est le bonheur. Step on my boots when you choose. Well, you can do what I play. Step on my boots when you choose. Et là, ce que ça raconte, c'est qu'en fait, toute la question, c'est la question de l'écart. C'est qu'en fait, ils cherchaient un écart. Et plus l'écart est grand, plus ça marche. C'est-à-dire, il y aurait 6 imitations réussies, le plaisir est moins grand d'en avoir 5 ratées et une réussie.
Mais c'est une science de la scène, ça.
Bah ouais. Exactement, parce que c'est un art de la frustration. Mais c'est ça le récit aussi. C'est de la narration, ouais. C'est de la narration. C'est de savoir ménager un suspense, des surprises, jouer sur, comment dire, savoir tirer la corde un peu trop loin. Savoir toujours aller un peu trop loin. Et ça c'est l'art.
C'est du jeu, vas-y.
C'est l'art au sens de l'artisanat.
Bon, allez, sortez là, on en a marre. Qu'est-ce qu'elle fait encore là ?
Merci à Sophie Pérez, Pacôme Thialman, Jossou Ben, Guillaume Aurignac, Adrien Desnouettes, Amandine Lourdel, Tristan Lucas, Olivia Gazalet, Fanny Ruet, Aurélien Ploquin, et les élèves du cours de clown du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Traduction, Grégoire Lagrange. Prise de son, Florent Bujon, François Saint-Jour, Éric Boisset, Jean-Louis Deloncle, Julien Douminc et Anthony Thomasson. Mixage, Éric Villenfin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales.
Au revoir.
Coordination, Emmanuel Laurentin.
Au revoir.
C'était Faire rire sur scène, épisode 4, Rire dans le chaos, un documentaire de Romain de Bec-de-Lièvre, réalisé par Anne de Pelchin.
Au revoir.
Retrouvez l'émission sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.
Ok, merci.